Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les studios de Mediapart. Nous poursuivons notre cycle sur les mémoires irréconciliées entre la France et l'Algérie. Aujourd'hui, nous recevons l'historienne Raphaëlle Branche, qui est l'autrice d'un des livres majeurs de cette rentrée, « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?». C'est aux éditions La Découverte. C'est une enquête hors norme, des années de travail, sur la place et le vécu de la guerre d'Algérie dans la société française. Raphaëlle Branche explose les silences familiaux et collectifs à travers une collecte immense de témoignages et de sources inédites auprès d'anciens appelés de la guerre d'Algérie et de leurs proches. Elle éclaire les non-dits d'une guerre sans nom et sans gloire que la France a mis des années avant de reconnaître. C'était en 1999. Bonjour Raphaëlle Branche.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. J'aimerais rappeler un de vos travaux qui est important, c'est celui que vous avez réalisé sur la torture. Vous avez été l'une des premières à sortir la bombe de la violence de l'armée coloniale française et de la torture érigée en système en Algérie, à partir notamment de 1957 et de la bataille d'Algérie pour réprimer le nationalisme algérien. C'était à l'aube des années 2000, c'était votre sujet de thèse et c'était déjà une transgression à l'époque, on pourrait dire. Et c'est en travaillant sur la torture que vous vous êtes interrogée et que vous avez été confronté à ces silences qui sont aujourd'hui au cœur de cet ouvrage. Silences que nous allons explorer avec mon collègue Fabien Iscalona. Bonjour Fabien.
Bonjour. Bonjour Raphaëlle Branche. Bah, justement, votre enquête, vous le dites, hein, elle consiste à faire l'histoire d'un silence, partiel en tout cas, mais un silence qui a beaucoup pesé. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous insistez sur le fait que c'est pas juste le silence des appelés eux-mêmes, c'est pas juste des silences individuels. Vous dites que c'est un silence qui est collectif, coproduit en quelque sorte, et vous employez l'expression de structure de silence. Alors, je crois que ça, c'est le cœur du bouquin. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer cette expression de structure de silence et pourquoi elle éclaire cette difficile transmission de ce qui s'est passé en Algérie ou de ce que les appelés ont fait en Algérie?
Ok, merci pour votre question, effectivement. En fait, c'est assez simple. C'est-à-dire l'idée que j'essaie de faire bouger le regard sur le silence. C'est-à-dire que d'habitude, on a l'impression qu'il s'est passé une expérience et elle produit du silence ou elle produit de la parole. Et ce que je dis, c'est que si on voit les choses comme ça, on ne peut pas comprendre, en fait. On se focalise sur l'expérience et on se dit qu'est-ce qui s'est passé dans l'expérience pour qu'il y ait du silence. Quand on s'interroge sur le silence. Moi, je dis que le silence, en fait, c'est une structure relationnelle et que donc, il faut prendre en compte beaucoup plus large. Il ne faut pas se contenter de regarder, en l'occurrence là, l'appelé, l'ancien appelé, et ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas, mais à qui il le dit, à qui il peut le dire, avec quels mots il peut décrire, il peut confier son expérience. Donc, la structure de silence, c'est ça. C'est que ce sont des gens qui sont en communication, en relation les uns avec les autres. Et moi, je me suis centrée sur la famille, c'est-à-dire le premier lieu de transmission de l'expérience. Mais cette famille, c'est comme une poupée russe, d'une certaine manière, cette famille, elle est dans une société. Et la société qui m'intéresse, c'est la société métropolitaine de l'époque jusqu'à nos jours.
Quand je parlais de coproduction du silence, il y a les appelés, leur entourage et la société tout entière. Je reviens sur ce que vous venez de dire, sur votre choix de vous focaliser sur la famille. Vous prenez vraiment ça comme unité d'analyse. Vous dites que c'est un échelon qu'on a parfois peut-être un peu négligé. Vous avez enquêté sur une quarantaine de familles, mais en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus de questionnaires écrits, je crois environ 300. Vous avez aussi fait des rencontres directes avec certaines personnes de cet échantillon. Alors, le travail, il est colossal, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi vous dire, mais après tout, il y en a eu des milliers de cas. Vous en avez quelques centaines. Bon, c'est beaucoup, mais c'est aussi beaucoup de singularités. Comment vous y êtes pris pour constituer cet échantillon? Et est-ce que vous pouvez peut-être donner un exemple des récurrences que vous avez quand même observées à travers cet échantillon? Parce que vous dites, on observe des récurrences qui permettent de monter un peu en généralité sur ces appelés.
Alors, pour vous répondre, il faut se rappeler que c'est de l'histoire, c'est pas de la sociologie ou c'est pas de la science politique. Et donc, on travaille là 60 ans après les faits. Donc il y a un premier biais et un premier prisme qui est tout simplement la démographie, la mort, qui a frappé de manière inégale les acteurs et les gens. Et donc en l'occurrence là, je recueille leurs témoignages tout à la fin de leur vie pour ce qui est des appelés. Donc certains ne sont déjà plus là. Alors ils sont quand même présents dans l'enquête, ceux qui sont morts, puisque j'ai interrogé leur famille et puis parce qu'il y a d'autres sources. Donc là, il y a toutes sortes de biais. Donc ça, c'est le premier biais le plus évident quand on fait de l'histoire, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a que les gens qui sont encore vivants et qui sont encore en état de communiquer, de parler d'un point de vue physique et psychologique. Après, je pourrais vous parler assez longuement de comment j'ai fait l'enquête, mais je pense que ça va être un petit peu long. Mais globalement, de ce que j'ai récupéré, ça a fonctionné comme ça. C'est-à-dire que c'est pas a priori, j'ai construit un échantillon, j'ai drainé un certain nombre de témoignages par toutes sortes de voies. Et après, j'ai fait une base de données et j'ai essayé de repérer s'il y avait des biais. Donc, il y en a sans doute que je n'ai pas vu, mais moi, il m'a semblé, et à ma grande surprise, en fait, qu'il y avait une représentativité assez importante, notamment une chose qui m'importait beaucoup, c'était la géographie française, c'est-à-dire d'avoir des petits villages, des petits bourgs, des villes, des grandes villes, des endroits où il y avait des Algériens, des endroits où il n'y en avait pas, voilà, qu'on ait vraiment...
Des sensibilités politiques différentes.
Des sensibilités politiques, des niveaux d'éducation, des religions, enfin, des gens croyants, des gens non croyants, voilà. Donc, évidemment, ça, c'est une fiche que je fais remplir aux gens qui me permet de dire que je crois que ça tient à peu près la route autant qu'on peut évidemment l'espérer. Et puis aussi, on commence à se rendre compte quand les choses sont un peu récurrentes. Et puis surtout, j'ai croisé avec plein d'autres sources, en fait. Donc il y a des témoignages, des entretiens, le service historique de la défense, l'Office national des anciens combattants des victimes de guerre, il y a une quinzaine d'années, avait fait une énorme enquête que j'ai beaucoup exploitée, que j'ai beaucoup écoutée, qui était centrée notamment donc, seulement sur les appelés. Donc voilà. Et puis il y a des sources de l'époque. Et puis surtout, les 40 familles dont vous parlez, si je les ai choisies, c'est parce que j'avais pour elles des strates de récits. La première, c'était le récit pendant la guerre. Donc toutes, elles ont un récit pendant la guerre. Donc ça peut être une correspondance, un journal intime, les deux, des photos, etc. Et puis il y avait le récit, les récits des questionnaires, et parfois, enfin même la plupart du temps, il y avait un récit écrit a posteriori. Donc j'avais comme ça moyen de comparer leurs récits. Et ce qui m'intéressait vraiment, c'était les variations des récits. Puisque là aussi où c'est de l'histoire, c'est que je travaille depuis les années 30, leur enfance, jusqu'à nos jours. Et donc j'essaye de montrer les dynamiques relationnelles précisément qui font qu'à certains moments, on parle à son père, à certains moments, on ne lui parle plus, à certains moments, on peut de nouveau lui parler. Et que tout ça, c'est pas simplement une histoire de mon père est méchant, mon père est sympa, ou je suis un fils modèle. Non, c'est aussi la société qui fait que voilà, les modèles de paternité évoluent. Les exigences vis-à-vis des enfants évoluent et donc la capacité à échanger au sein d'une famille change. Donc tout ça, c'était intéressant pour ça d'avoir les différentes strates et c'est ça qui a été pour moi un critère de choix. Mais sans doute qu'on contestera. En même temps, je vois pas trop comment on aurait pu faire autrement en réalité. Mais voilà.
Vous travaillez sur du matériau privé dans cet ouvrage, ouais. En tous les cas, c'est très fort. Mais pour travailler, quand on est historienne, il faut aussi avoir accès aux archives constituées par la puissance publique. Et c'est l'enfer en France comme en Algérie pour la communauté chercheuse. Vous êtes témoin de cela. Une bataille décisive est en train de se jouer aujourd'hui en France. C'est la bataille pour l'abrogation de l'IJ 1300. Derrière cette abréviation se cache l'instruction générale interministérielle, qui est un des plus gros freins à la recherche aujourd'hui en France sur cette guerre France-Algérie. Est-ce que vous pouvez nous raconter la bataille ? Vous allez déposer un recours dans les prochains jours ?
Alors, c'est l'article 63 de l'IJI dont on demande l'abrogation. C'est pas l'ensemble de cette instruction interministérielle qui concerne, en fait, la question du secret dans la France d'aujourd'hui. Donc, notre action, elle se concentre sur un article qui concerne les archives, en fait. Donc, l'expliquer assez simplement, j'espère, la situation de toute personne qui veut consulter des archives publiques en France, elle dépend d'une loi, une loi qui s'appelle le Code du patrimoine de 2008. Et cette loi dit des choses assez simples, elle édicte des principes assez simples. Les archives sont librement communicables pour tout le monde, sauf qu'il faut attendre un certain temps en fonction du type de document. Donc, ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, en l'occurrence, pour les documents secret défense, en France, c'est 50 ans. La règle, c'est 50 ans. Donc, vous voyez la date de production du document ou de la période à laquelle il appartient. Donc, pour la guerre d'Algérie, c'est souvent 1962 qui est pris comme date. Vous ajoutez 50 ans et à partir de 2012, dit la loi en 2008, tout est accessible pour ce qui concerne les documents secret défense. Il y a des documents qui ne sont toujours pas accessibles, les secrets médicaux, etc. Mais globalement, le document de base de secret défense, il est accessible. Or, une instruction interministérielle qui est donc inférieure en termes de hiérarchie des normes à une loi a dit que, en fait, ça n'allait pas pouvoir se passer comme ça et que tous les documents qui avaient un tampon secret ou qui étaient secret défense devraient être formellement déclassifiés. C'est-à-dire qu'on devrait apposer sur chacun de ces documents un tampon déclassifié. Alors, c'est intéressant que l'instruction interministérielle dise ça pour les documents qui sont produits aujourd'hui par les services qui travaillent et qui font des documents secrets. En fait, ce qu'elle dit, c'est quand vous verserez, vous, la DGSE, quand vous verserez vos documents aux archives, pensez bien à les tamponner un par un avant de nous les donner. Ça, d'accord. Le problème, c'est que c'est rétroactif. Il y a une espèce d'application rétroactive un peu délirante parce que les dates de départ de cette rétroactivité varient. Là. Depuis quelque temps, ça varie pas mal. Donc on nous dit 1940, on nous dit ah non, finalement, ça va être août 54, ça va être au carton, ça va être au document. Voilà. Donc
balade.
C'est assez flou. Enfin, on nous balade, sauf que le principe reste le même. Il n'a pas bougé. Et donc, ça oblige à réouvrir tous les cartons d'archives. Et concrètement, le problème, c'est que des documents qui sont légalement communicables, c'est-à-dire vous allez aux archives, vous demandez, vous le voyez tout de suite, comme dans une bibliothèque ou quand vous demandez un livre, on vous l'apporte sur votre table. Là, on vous dit, ah oui, en fait, la loi dit que... Mais en fait, non, parce qu'il faut qu'on vérifie d'abord à l'intérieur que tous ces documents secrets ont bien été tamponnés. Or, ils n'ont pas été tamponnés parce qu'ils n'ont pas été tamponnés quand ils ont été versés. Donc, il faut aller rechercher le service producteur de départ. Donc, par exemple, vous êtes aux archives nationales, mais en fait, c'est la PJ qui a tapé. Donc, il faut aller demander à l'intérieur, qui a tapé le tampon. Il faut aller à l'intérieur en disant, est-ce que vous pourriez nous envoyer quelqu'un qui pourrait vérifier que le secret de l'époque, d'après la PJ, c'est plus un secret. Donc, évidemment, on imagine bien que c'est des hommes, des femmes qui doivent se déplacer, venir, ouvrir. Donc, ça prend un temps fou. Donc, c'est pas vraiment une entrave, les archives sont pas fermées. Mais on nous dit juste, désolé, il faut attendre.
Ça reste un frein considérable.
Ça peut attendre, et donc voilà, donc concrètement, on peut attendre des mois, on peut attendre des années d'avoir des réponses. Donc effectivement, là, on a déposé un recours au Conseil d'État en disant qu'il y avait un problème avec cet article 63.
Cet IJ 1300 contredit l'engagement du président français Emmanuel Macron, qui avait promis l'ouverture des archives. On se souvient de sa visite à Josette Audin en septembre 2018. Josette Audin, c'est la veuve du célèbre mathématicien et militant anticolonialiste assassiné à Alger pendant la bataille d'Alger en 1957. Et il avait promis l'ouverture des archives. Ce n'est absolument pas le cas. Comment vous observez son volontarisme, que certains qualifient de fort, sur la question franco-algérienne, et particulièrement cette initiative lancée de part et d'autre de la Méditerranée avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui est de réconcilier les mémoires.
Alors, il n'est pas le premier à avoir eu envie de réconcilier les mémoires. Il n'est pas le premier président à avoir fait des gestes en ce sens. Le président Hollande, avant, dans un discours à Alger en décembre 2012, avait dit des choses très fortes déjà. Là, ce qui me paraît intéressant, et d'ailleurs c'est dans la lignée du discours de François Hollande, et c'est d'ailleurs pas un hasard puisque c'est aussi Benjamin Stora qui est dans cette histoire, la lettre de mission du président Macron, elle dit bien la colonisation et la guerre d'Algérie. Et là, on a vraiment quelque chose qui semble avoir été enfin entendu, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de parler de la guerre d'Algérie sur le modèle de la guerre de 14 ou de la guerre de 14-18, quoi, ou de la guerre de 40, pardon.
Avant cela, il y a 132 ans d'oppression
coloniale.
C'est
la séquence finale d'une période coloniale très longue, très complexe, qui explique que l'imbrication de nos sociétés ne peut pas être pensée sur le modèle de la réconciliation franco-allemande. Et pendant très longtemps, on a comparé la non-réconciliation, et ça peut vraiment se discuter de savoir s'il y a non-réconciliation, mais en tout cas l'absence de traité, par exemple, de paix entre la France et l'Algérie, on l'a comparé avec la situation franco-allemande. C'est vraiment un des problèmes, c'est-à-dire je pense qu'on a mal pensé les choses. Si on l'a pensé comme ça, on les a mal pensées. Et donc là, il y a quelque chose d'intéressant à dire que voilà, il faut bien penser les choses en lien avec les 130 ans qui ont précédé. Et l'autre élément sur Emmanuel Macron, c'est effectivement la déclaration de septembre 2018. Pour moi, c'est une déclaration extrêmement importante politiquement, symboliquement, parce qu'il a fait le choix de dépasser le cas de Maurice Audin.
Moi, effectivement,
il a fait. Il y a deux choses dans ce texte qui sont très intéressantes. C'est l'extension à l'ensemble du système, et il a repris les travaux des historiens sur ce point, et là. Le passage sur les archives. Mais si vous faites attention, ceci dit, dans la déclaration, il n'y a pas le mot colonial. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui reste un peu compliqué à dire. Mais effectivement, sur les archives, c'est l'initiative de l'Élysée de rajouter un point sur les archives. Moi, j'avais été très étonnée quand on en avait parlé, parce que je leur avais dit, est-ce que vous avez l'accord des archivistes? Enfin, est-ce que ça va être possible? Donc ils avaient dit oui, en fait, effectivement, non, en fait, c'est... très compliqué.
Et vous qui avez écrit un livre qui s'intitule « La guerre d'Algérie, une histoire apaisée, point d'interrogation oui. », est-ce qu'on peut réconcilier ?
Je ne comprends pas très bien, en fait, moi, ces cadres de pensée, ces cadres politiques. Voilà, donc, 60 ans après, je veux dire, la réconciliation, ça peut avoir plein de formes, mais là, en l'occurrence, je ne vois pas très bien. J'ai aussi fait une exposition sur cette question de mémoire partagée, histoire commune. Voilà. Je pense que c'est intéressant de réfléchir au commun. Je crois vraiment que c'est très intéressant que nous avons du commun entre les Français et les Algériens. Et notre histoire, évidemment, c'est un des éléments communs. Mais bien au-delà de ça, nous avons des mots communs, nous avons une langue en partie commune, nous avons plein de choses à valoriser. réconciliation, il faudrait qu'on soit fâchés. Enfin, je suis pas sûre que ce soit ça, en fait. Enfin, il y a aussi une dimension extrêmement politique, quand même, dans tout ça. C'est pas celle qui m'intéresse le plus. Mais je veux dire d'État à État. Les deux sociétés ne sont pas du tout au même niveau d'attente. On les a pas travaillées de la même manière aussi. Les États n'ont pas travaillé cette thématique de la même manière, les régimes. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de différences. Ça va pas être facile, mais bon, voilà. De toute façon, tout ce qui est dans le dialogue, moi, je suis pour. Hein. C'est positif.
Alors, pour quitter le terrain politique et revenir au cœur de votre ouvrage, on voulait poursuivre l'entretien avec certains des principaux résultats ou angles qui nous ont particulièrement marqués. Un point qui m'a interpellé, qui apparaît très tôt dans le livre, c'est l'importance que vous donnez à la génération des appelés, c'est-à-dire des gens qui sont nés dans les années 30. C'est assez fascinant parce que s'il y a un truc auquel on ne peut pas échapper, c'est notre date de naissance et notre place dans la flèche du temps, quoi. Et vous expliquez assez bien, et j'aimerais peut-être vous entendre là-dessus, ou que nos spectateurs vous entendent là-dessus, sur pourquoi leur enfance dans les années 30, et puis de gens qui ont grandi évidemment avec la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi cette enfance est cruciale pour expliquer comment ils ont pu traverser, avec quel bagage historique ils ont pu traverser cette guerre d'Algérie dont ils ont été des protagonistes.
Le raisonnement, c'est de dire qu'ils sont projetés dans la guerre à 20 ans. Donc là, on parle exclusivement de gens qui sont partis en Algérie pour faire leur service militaire. Donc ils ne sont pas des gens qui ont désiré être dans l'armée et qui font leur devoir de citoyen en faisant leur service militaire à une époque où il n'y a pas d'autre possibilité, hein, il n'y a pas d'option autre que partir ou faire de la prison.
Oui, vous dites à l'époque l'objection de conscience.
Ça n'existe pas. Et donc il y a des formes de refus, mais c'est un délit et donc on fait de la prison.
On le paye pas.
Donc c'est voilà la marge d'option, elle est quand même très 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 faible. Mais de toute façon, on est dans une société qui consent au service militaire sans discussion pour plein de raisons. Et donc voilà, justement, je voulais montrer que ce consentement, il s'ancrait dans une histoire. Et puis plus largement, donc ils ont 20 ans, donc ils sortent pas de, ils viennent pas juste de naître, hein, et donc ils appréhendent la guerre avec des choses qui viennent de leur socialisation primaire, de ce qu'ils ont appris à l'école. De leur vision du monde. Donc j'essayais de comprendre ça, non pas à l'échelle des individus, mais à l'échelle justement de ce groupe né quelque part entre 1934 et 1940. Quoi, voilà. Or, il se trouve que ce sont des périodes qui sont très lourdement lestées en termes de guerre, de souffrance, etc. Et donc voilà, donc c'est ça que je mets en valeur en fait. Notamment, on pourrait choisir d'autres éléments, mais voilà, ça me paraît essentiel de se rappeler que les années 30 sont encore très très lourdement imprégnées de la mémoire de la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, ça va durer au moins jusqu'aux années 50. Hein, on l'oublie parfois. C'est pas parce qu'il y a eu la Deuxième Guerre que la mémoire de la Première a disparu. Hein. Au contraire, elle reste l'étalon vraiment, les poilus, leurs sacrifices. Et puis toutes les familles françaises et tous les villages de France et toutes les communes de France ont été touchées. Donc il y a une très grande prégnance de ce modèle-là guerrier, très très mortel, hein, et puis valorisé sur un mode héroïque qui ne veut pas dire simplement des gens va en guerre, hein, pas du tout, beaucoup de pacifistes aussi, beaucoup de pacifisme dans les années 30. Et donc voilà, je voulais mettre en place l'importance de l'ombre portée de la Première Guerre mondiale à la fois dans la société et dans chaque famille, parce qu'il n'y a pas de famille qui n'a pas été touchée, et puis ces enfants-là, donc qui sont dans ce monde-là, ils sont précipités aussi dans la Deuxième Guerre mondiale. Et là, ils ont une expérience forte de la guerre. Et ça aussi, ça me paraît très important de le rappeler, parce qu'ils connaissent les privations, ils connaissent l'occupation allemande, bien sûr, et puis pour certains, des choses plus extrêmes. Mais la majorité des Français, c'est le rationnement. Ça peut être aussi, bien sûr, le départ du père à la guerre et la captivité du père, et pendant plusieurs années. Et donc, c'est sur ce fond-là que quelques années après, parce que c'est quand même que 9 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, ils partent tous progressivement, et à partir de 1956 tous, faire leur service en Algérie, juste leur service militaire. Mais là-bas, ils vont trouver des choses qui leur rappellent l'occupation. Et là, le problème, c'est que c'est eux les occupants. Alors, ils vont trouver des choses qui leur rappellent des crimes de guerre. Et là, le problème, c'est que c'est leur armée qui les commette. Et donc, ces résonances-là, qui sont très, très fortes autour de la Deuxième Guerre mondiale, elles m'ont paru importantes à signaler. Mais il y a plus que ça. Il y a vraiment aussi la Première Guerre qu'il ne faut pas oublier, et qui va expliquer, je crois, qu'ils vont avoir du mal à se penser en guerre, qu'ils vont surtout avoir du mal à se penser comme anciens combattants.
Ouais. Et vous le dites, d'ailleurs, ce sera un combat hein, pour avoir eux, des reconnaissances du statut combattant. Je voulais quand même vous faire commenter un extrait de récit que vous citez dans le livre. Là, c'est la mémoire de la Seconde Guerre mondiale qui est mobilisée. C'est un appelé qui est de sensibilité communiste, il le dit. D'ailleurs, il dit « Honte de moi, communiste, dans cette Jeep en occupant. J'ai croisé avec gêne le regard d'un Algérien Car enfin, nous avons le visage des occupants sans gêne, brut et prétentieux, nous agissons comme tels. Après, il se corrige, il dit « je me trompe ». Ce n'est pas la honte de moi, mais la honte pour ceux qui agissent ainsi. En même temps, il y a la mise à distance.
Et ce que vous ne dites pas, c'est que c'est dans son journal intime. Ouais. Donc, ce n'est pas du tout destiné à être lu, ce n'est pas destiné à mobiliser ses camarades. C'est son ressenti. Alors, en plus, ce n'est même pas un journal intime, c'est un petit carnet, il écrit tout petit, comme ça. Voilà, il y a une espèce de... Il est très, très mal à l'aise, en l'occurrence, cet appelé, parce qu'effectivement, il est dans un régiment très opérationnel. Et lui, il vient d'une famille antifasciste, militante, qui a agi... ses parents ont été résistants pendant la guerre. Donc, voilà, ce n'est pas simplement une projection sur la résistance, etc. C'est vraiment... il a un sentiment de très violent d'être à la mauvaise place. Donc c'est vrai que c'est très l'exemple que vous avez choisi est très extrême d'une certaine manière. Il l'exprime pas tous aussi nettement, hein, mais je sais parce que quand j'ai travaillé avant sur les questions de torture etc. ça revenait vraiment très très souvent cette idée de voilà qu'est-ce qu'on fait avec cette comparaison qu'on ne peut pas du tout assumer en fait c'est vraiment pas possible, en fait, de penser l'armée française comme ça. Mais quand même, il y a des échos qui font très, très mal. Et ça m'intéressait aussi de le dire, parce que c'est aussi des choses que leurs proches ont pu penser, ont pu ressentir. Et donc, pour revenir à votre question sur établir un peu leur représentation du monde dans les années 30, les années 40, c'était aussi donner à comprendre les mots, les représentations qu'ils pouvaient avoir en commun avec leurs proches, qu'ils pouvaient comprendre des choses. Par exemple, je parle d'un appelé qui écrit à son père... je crois qu'ils ont brûlé les moissons, voilà. Qu'ils ont dû brûler les moissons, qu'ils ont dû ne pas, enfin brûler le fruit des moissons des paysans dont ils s'occupent. Donc c'est une catastrophe, en fait, c'est absolument une catastrophe. Il suffit de dire ça pour que le père qui est dans la plaine, quelque part dans l'Oise, et qui par ailleurs a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi des problématiques de ce type-là, de destruction des vivres, comprenne qu'une armée qui fait ça, c'est pas exactement une armée qui fait son service militaire, voilà. Mmh. Et donc ça, parfois il suffit d'un mot et d'une référence pour que dans la famille ça prenne sens.
Une petite dernière question sur cet aspect générationnel. Vous parlez aussi de la rigidité des rôles familiaux dans lesquels ils sont inscrits. Ça les poursuit pendant longtemps. Et en même temps, ils sont un peu charnières.
Oui.
Ils sont un peu charnières parce que très vite après eux, même leurs frères et sœurs qui naissent quelques années plus tard, c'est à partir du moment où les familles se transforment. Et vous dites eux-mêmes que après eux-mêmes se transforment dans leurs rôles familiaux plus ils vieillissent. Je ne sais pas si c'est une bonne question, mais est-ce que vous diriez que la guerre a ralenti, ou je parle de la guerre d'Algérie, a ralenti ou accéléré un peu cette remise en cause des rôles hérités dans la famille traditionnelle?
Alors c'est une question, enfin c'est vraiment une question passionnante plus large. Hein, c'est-à-dire, est-ce que la guerre gèle ou accélère hein. Pour ce qui concerne les rôles dans les familles, je pense pas que ça ait pu jouer. En revanche, il y a une question qui traverse les familles et qui est plus large, qui est le rapport à l'autorité. Je pense qu'il y a quelque chose à penser dans la France des années 60, qui est le poids de la guerre d'Algérie dans le rapport à l'autorité et le rapport à l'armée et le rapport au monde politique. Voilà, ça, je pense que ça a absolument marqué de manière fondatrice cette génération de jeunes qui n'avaient pas encore le droit de vote quand ils parlent. Il faut quand même s'en souvenir, on a le droit de vote à 21 ans à cette époque. Et ça, on n'a pas assez travaillé ça. C'est-à-dire comment ça a fait des gens qui ont d'emblée quelque chose à reprocher au pouvoir politique, quand même pour beaucoup, de les avoir envoyés faire cette guerre qui n'avait pas de sens ou qui rapidement n'en avait plus, etc. De les avoir baladés, de leur avoir dit « vous allez rester tant de mois, puis en fait deux de plus, puis en fait finalement trois semaines de moins. Puis... » Donc ça, c'est des choses qui marquent beaucoup. On n'a pas encore travaillé sur ça. Moi, ce que j'ai vu donc du point de vue des familles, c'est effectivement que contrairement à ce qu'ils s'imaginaient eux, ils s'imaginent qu'ils vont reproduire le modèle de leurs parents. Et il y a un sondage pendant l'époque qui le dit, ils sont encore en train de penser qu'ils vont faire comme leurs parents. Et en fait, ils se rendent pas compte que la société est en train de prendre des directions très très radicalement différentes, que ce soit en termes d'objets techniques, de pouvoir d'achat, de plein de choses, d'accès à l'éducation, à la sexualité plus libre, à la contraception. Enfin, tout ça, ça va bouleverser en fait leur monde en très peu de temps. Et il se trouve que ça arrive, ça bégaye déjà quand ils sont en Algérie, ça balbutie. Donc eux, ils ont un peu raté le départ hein, pour certains, mais bon, pour certains, ils vont rester dans le monde d'avant, pour beaucoup, ils vont suivre. Donc oui, la guerre a sans doute eu un effet, mais je pense qu'on l'a pas encore assez bien mesuré sur plein d'aspects. Donc là, j'essaye effectivement de le toucher du doigt pour ces questions de rôles familiaux. J'essaye aussi d'en parler sur la question du racisme. Je pense qu'il y a des effets comme ça de la guerre, mais c'est à mon avis plus large encore.
On va y revenir sur cette question-là. Mais déjà, rappeler que la force de votre livre aussi, c'est de montrer qu'on peut être bourreau et victime. Bourreau pour avoir commis des atrocités, des viols, la torture. Victime pour avoir été embarqué dans une guerre alors qu'on partait faire son service militaire. Guerre qui n'était pas nommée comme telle. On était là pour pacifier. Bref, embarqué dans quelque chose que l'État déniait en profondeur. Et je voudrais qu'on s'arrête sur ces points aveugles que vous développez longuement dans le livre, que sont les blessures psychiques et les suicides. Et je voudrais citer deux histoires parmi beaucoup d'histoires qui nous marquent. C'est celle d'Aimé qui s'est laissé mourir dans un trop-plein d'alcool et de Georges qui, lui, s'est immolé par le feu. C'est page 365. Je vous lis quelques extraits. Aimé était hanté par une image depuis son retour. Sergent dans l'infanterie, il aidait ses hommes à traverser un oued en se tenant debout sur des pierres. Le premier homme qu'il fit passer reçut une balle dans la tête et mourut dans ses bras. À son retour, Aimé se mit à boire. Ce souvenir traumatique s'ajoutait à une situation familiale et professionnelle bouleversée par la guerre. En effet, le jeune père de famille était parti en Algérie alors qu'il venait d'acheter une boutique de mercerie avec son épouse. Elle ne put faire face aux traites du commerce en son absence. La faillite conduisit le couple à revenir habiter chez leurs parents. Le départ en Algérie d'Aimé devint ainsi synonyme a posteriori des malheurs qui s'abattirent sur les jeunes gens, les menant à une séparation douloureuse des années plus tard. Retrouvé mort chez lui, Aimé s'est laissé mourir, commente André Filler, dont la grande sœur a résolument décidé de ne jamais parler de la guerre, y compris à ses enfants. Et ensuite, vous parlez du cas de Georges Renard. Pour eux, aucun doute, c'est son séjour en Algérie qui l'a détruit. Parti en mars 1962, comme matelot engagé, il séjourne à Oran. Il y est donc au moment des pires violences, puisqu'il ne rentre qu'à la fin de l'année. Pour sa famille, la guerre est finie et il est difficile d'imaginer qu'il puisse être en danger. À son retour, pourtant, il le trouve changé, détruit, loque, me disent-ils. Ils comprennent qu'il a assisté à la mort d'un copain sous ses yeux. Il semblait perdu, faisait des cauchemars où il revivait des scènes violentes. Son agressivité, notamment tournée vers son père, ancien combattant, fait prisonnier à Dunkerque en 1940, et que ses enfants estiment aussi avoir été brisés par l'expérience. Plusieurs séjours en hôpital psychiatrique n'arrivent pas à sortir Georges de la dépression. En avril 1973, 10 ans après son retour d'Algérie, il s'immole par le feu. Et vous dites, on dit d'eux qu'ils ne sont jamais rentrés d'Algérie et que la guerre a finalement eu raison de leur équilibre mental. Parlons-en, parce que il a fallu attendre 94 pour qu'on reconnaisse le statut d'ancien combattant.
74,
pardon. Il a fallu attendre les années 90 pour qu'on s'intéresse enfin aux blessures psychiques et 1999 pour qu'on dise que c'était une guerre.
Il y a quelque chose de très paradoxal dans ces anciens combattants qui sont reconnus en 74, qui ne sont pas les anciens combattants d'une guerre. Ça, c'est quand même assez fascinant. Mais en fait, c'est vraiment à l'image du rapport de l'État français à la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que c'est pas comme s'il avait dit tout le temps c'était la paix en Algérie. Il y avait quelque chose qui était assumé quand même de ce qui s'y passait, des violences, mais c'était pas la guerre. Et donc c'est toujours dans l'ambiguïté en fait. Et donc là on a quand même 25 ans de trucs un peu bizarres qui est on est un cinq combattants d'opération mais pas de guerre. Et des combats mais pas de guerre. Donc oui, il y a dans ces 25 ans beaucoup de choses qui se passent en termes de progressive reconnaissance des troubles et des traumatismes. Alors, mon livre n'est pas centré sur ça. À la fois, c'est une dimension importante parce que voilà, beaucoup d'hommes ont été brisés. Alors, brisés jusqu'au suicide, les cas que vous venez de citer sont extrêmes, mais brisés au sens intimement brisés, dépressifs, alcooliques, violents, avec un sommeil bizarrement très très léger toute leur vie. Voilà, donc il y a des signes de troubles. Voilà, il y a des gradations, disons. Donc tout ça m'a intéressée, et puis de voir comment les familles les voyaient, parce qu'il y a la question de la reconnaissance de l'État. Votre question, elle va dans ce sens. Elle a été très longue, et maintenant elle est acquise. On peut se voir reconnaître une pension pour un trouble, y compris qui s'est manifesté des dizaines d'années après les événements, un trouble post-traumatique au sens où en parlent les médecins. Donc ça, maintenant l'État enfin le reconnaît depuis une vingtaine d'années, mais la question, c'était aussi, est-ce que les familles ont compris ce qui se passait? Un homme violent, est-ce qu'elles ont fait le lien? Donc parfois, oui. Donc les exemples que vous donnez sont des familles qui me l'ont raconté, donc elles ont fait le lien. Mais parfois, pas du tout.
Oui.
Et c'est aussi ça que j'essaye de comprendre. Et là, j'ai pu travailler dans les archives des hôpitaux psychiatriques, où on voit très très bien que ni les médecins, ni les familles ne font le lien.
Oui, et vous racontez à un moment, c'est fascinant, c'est on revient d'Algérie, et la question qu'on te pose, ou la remarque qu'on te fait, c'est « Ah, tu as pris des couleurs, tu as bronzé. »
Oui, bien sûr. Mais oui, mais ça, après, il faut pas forcément mettre le blâme sur les familles, parce que il faut imaginer à l'époque que qu'est-ce que les gens savaient de ce qui se passait en Algérie. Bon, voilà, et qui lisait la presse, qui écoutait une radio et une télévision, pour ce qui est de la radio et de la télévision française, complètement contrôlée. Alors il y avait les radios qui émettaient depuis l'extérieur, mais voilà. Et puis il y avait aucun journaliste qui avait accès au terrain militaire. Il faut quand même bien le rappeler. Aucun journaliste n'avait accès au terrain militaire, sauf vraiment accès à ce que disait l'armée. Donc toute la communication était très très contrôlée. Et puis il y avait aussi ce que les soldats disaient eux-mêmes. Et donc, comme ce qui importe le plus à un soldat quand il part loin, c'est de rassurer sa famille, c'était d'abord des lettres pour dire que tout allait bien. Et que, alors c'était drôle, les gens ici, ils s'habillent pas comme nous. Je pense à un soldat qui écrit à son petit frère, tu sais, ici c'est Mardi Gras tous les jours, tous les gens sont tout le temps déguisés. Voilà. Le même homme qui a vécu des choses pas forcément très agréables, mais qu'il n'a pas forcément envie de raconter dans les lettres. Et donc après, forcément, bah oui, c'était sympa, les gens déguisés, quoi, quand ils rentrent. Et donc certains me disent aujourd'hui, en fait, je comprends qu'il ne m'ait pas posé de questions parce que, en fait, j'avais fabriqué les conditions d'un silence.
Voilà. Et dans ce silence, parfois, il se brisait. Alors, au travers de la cuisine, il y a un passage, je vous expliquais comment c'est à travers le méchoui, la viande de mouton, le couscous garbi et puis la chouchouka, non pas la chouchouka, mais la chouchouka, que se dit l'Algérie.
Oui, j'ai essayé de pister, en fait, tous les éléments qui, dans la vie des familles, montraient qu'en fait l'Algérie n'était pas absente. Elle était peut-être tue, l'expérience de guerre était peut-être tue, mais l'expérience de l'Algérie, non, elle pouvait être dite, et la guerre et l'Algérie, par ailleurs, pouvaient être présentes. Mais présente, ça ne veut pas dire qu'il y a un discours dessus. Donc voilà, donc ils ont mangé du couscous, ils ont aimé ça, ou pas d'ailleurs. Il y avait des roses des sables, il y avait le pouf. Mais parfois, ils ne savaient même pas que ça venait d'Algérie, précisément, et encore moins qu'il y avait une histoire liée à la guerre dessus. Donc je raconte plusieurs cas de couvertures, des couvertures qui ont été des dessus de lit ou qui ont été des couvertures de pique-nique, qui en fait renvoient, quand j'ai pu l'identifier, à des histoires très précises, une couverture qui a été récupérée dans un village brûlé, une couverture qui est liée à l'évacuation d'une femme enceinte dans un contexte où c'est l'hélicoptère de l'armée qui la prend. Donc vraiment très liée à la guerre, mais ça les enfants n'en ont jamais entendu parler, et les compagnes non plus. Mais en même temps, c'est une trace de l'Algérie qui est là, et ça veut dire que au fil de toutes ces décennies que dure une relation familiale, ça pourra être un support, ça pourra revenir. Et là, je l'ai vu, moi, au cours de l'enquête, puisque je pense à un autre cas d'une famille, la famille Lange, où les enfants racontent, il y avait la citation de papa accrochée au mur, donc en fait, il y avait écrit la guerre. Il a sauté sur une mine où j'ai oublié le détail, voilà, il s'est conduit héroïquement, c'était écrit. Mais les enfants lisaient ça sans trop comprendre, en fait. Et puis maintenant, qu'ils ont plus d'éléments, qu'ils ont lu, qu'ils se sont intéressés, qu'ils ont interrogé leur père... Ils peuvent décrypter d'une certaine manière tous ces signes qui étaient là.
Et justement, votre enquête a aidé certains de ces descendants d'appeler, puisque le questionnaire, certains l'ont utilisé comme un prétexte pour enfin faire exploser les silences et combler les trous, alors qu'ils se contentaient de bribes, de fragments paternels. Comment, en tant qu'historienne, vous vivez d'avoir été l'étincelle qui a pu libérer la parole ?
Oula, je suis pas sûre que ça a été ça, mais je suis bien obligée de le dire pour certains parce que c'est le propre d'une enquête, hein, et puis j'en fais à chaque fois, donc je vois bien les différences en fait, la manière dont les gens répondent et tout. Et là, très clairement, depuis qu'il y a l'internet et les mails, c'est tellement plus fort qu'avant avec les lettres. Mais en fait, c'est depuis le début que j'ai commencé ma recherche que je suis prise à partie, utilisée, instrumentalisée par les gens que je rencontre pour essayer d'apprendre des choses. Alors ça peut être des choses très générales. Est-ce que on pouvait faire ce genre de choses ? Alors beaucoup m'a posé des questions sur la torture. Oui, non, mais il était engagé dans la marine, donc sans doute ça l'a jamais concerné. Voilà, ce genre de phrase qui, avec les trois petits points, qui aimerait bien que je complète pour voir si, en fait, oui, c'est vrai. Donc, en fait, ça m'arrive assez souvent. Là, je crois pour certains cas, mais voilà, que effectivement, parfois, le questionnaire a été un médiateur pour voilà. Puis certains me l'ont dit, donc voilà, je le sais. Mais bon, c'est aussi des reconstructions, hein, bien sûr.
On revient à la période contemporaine pour clore l'entretien. Voilà, au moment où on se parle, là, ça fait quelques semaines qu'on est à nouveau, comme souvent depuis plusieurs années, dans des polémiques identitaires dont notre beau pays a le secret, et avec la résurgence d'un vocabulaire autour du séparatisme, de la sauvagerie, de l'ensauvagement, qui évidemment résonne avec l'histoire coloniale. Alors, c'est vrai que la France n'est pas le seul pays à être agité par ce genre de polémiques, mais enfin, quand je parle de ce vocabulaire qui résonne avec cette histoire, on se dit, il y a quand même une particularité. Est-ce que vous, qui documentez l'histoire de ce silence peu à peu explosé, est-ce que vous pensez qu'il joue un rôle spécifique en France sur la forme que prennent nos débats permanents sur l'identité du pays et la suspicion que certains, ils sont pas dans la bonne identité et ils menacent cette identité collective?
Oui, enfin forcément, je peux que vous répondre oui. Je pense à la fois qu'on a un faisceau de choses à analyser pour bien répondre à qu'est-ce qui fait aujourd'hui nos malaises identitaires au pluriel en France, notre difficulté à se penser français ou avoir même du mal à dire voilà, il y a une identité française, je ne sais pas quoi. Oui, il y a quelque chose autour du colonial, ça, je ne suis pas la première à le dire, c'est énorme. Enfin, on le voit. Enfin, on voit qu'il y a un problème. C'est très, très bien. Il y a plein de manières de poser la question de ce problème. Je ne vais pas en développer là. Mais pour ce qui concerne l'Algérie, oui, effectivement, il y a un discours très fort sur l'Algérie. Donc, il faut aussi être méfiant, enfin, je pense, prudent, disons, sur la place que prend ce discours sur l'Algérie, qui est toujours l'Algérie comme une exception, l'Algérie comme un cas à part, l'Algérie comme un cas extrême, ce qui est historiquement vrai à plein d'égards, mais qui cache aussi peut-être d'autres arbres derrière, pas forcément plus digérés, en fait. Simplement, les gens sont les minorités, enfin, les gens sont moins nombreux, et donc on en parle peut-être moins. Ceci dit, il y a effectivement des problématiques qui se sont noués entre la France et l'Algérie au XIXe siècle, puis entre la République et l'Algérie, qui sont très très fortes, très 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 intimes, et qu'on n'a pas du tout politiquement assumé et regardé. Donc là, pour moi, il y a vraiment un rôle du politique qui doit être beaucoup plus net encore que ce qu'il fait jusqu'à présent, qui est vraiment de mieux travailler sur le rapport au passé, qui n'est pas simplement un rapport doloriste ou qui renvoie l'Algérie à un pays différent. Non, on a des liens. C'est compliqué parce que les relations avec l'Algérie sont compliquées aussi. Donc, de fait, on peut difficilement faire ça.
C'est un discours de vérité à accomplir soi-même, au-delà des relations à État-État dont on parle.
Voilà, je pense qu'il faut arrêter d'être toujours dans les relations d'État-État. Il y a un moment, il faut regarder ce que, en tant que France, on a fait en Algérie, en tant qu'État français, en tant que valeur, etc. Et puis, il y a la place des Algériens en France. La place, le nombre là aussi, qui a pendant longtemps été, toujours parmi les premières communautés étrangères en France, plus tous les gens qui sont d'origine algérienne en France, ça fait énormément de gens. Et donc ça fait une visibilité sur le territoire français de cette histoire par l'incarnation, par les gens qui sont autour de nous. Et ça aussi, je crois que c'est pas forcément assez travaillé. Et en revanche, ce qui est sûr, c'est que ça a donné un racisme avec une teinte spécifique, si on peut dire ça. Ça, c'est maladroit, mais un racisme anti-nord-africain, ça a été bien montré dans les années 70, mais qui était en fait un racisme anti-algérien. Et Benjamin Stora avait travaillé sur ça, il avait parlé de mentalité sudiste, il y avait des choses intéressantes qu'il avait suggérées, mais bon, qui n'ont pas été travaillées en fait encore assez, et qu'il faudrait, je crois, vraiment retravailler. Bon, pour ça, il faudrait peut-être avoir des sources qu'on n'a peut-être pas, qui n'existent peut-être pas, hein, travailler plus spécifiquement sur les formes de violence, les types de violence, les types de victimes, ce genre de choses, mais... plus on parlera du colonial, plus on parlera de ce passé, plus on essaiera d'expliquer que c'est pas blanc et noir, et que c'est pas, quand on dit que c'est pas blanc et noir, qu'on est forcément quelqu'un qui va penser que c'est blanc, c'est-à-dire que c'est positif. Voilà, je pense que faire exister la complexité vraiment de ce que c'était que le monde colonial, on en est très très loin, hein. On est très très loin aujourd'hui, je crois, et ce qui fait qu'il y a beaucoup beaucoup d'anathèmes, et on n'avance pas beaucoup, mais je pense quand même que c'est tout à fait souhaitable qu'on en parle, même si on en parle de manière parfois un peu clivante. Notre commun, c'est aussi le colonialisme, voilà. Notre commun, c'est cette expérience d'empire, quoi, qu'on a vraiment pas du tout assumé, quoi, pas du tout. Donc,
oui. En vous lisant, il y a deux lectures qui sont remontées parmi d'autres autour de la guerre d'Algérie et sur cette question des anciens appelés et de leur silence. Et celui de Florence Doss, Les héritiers du silence, qui était paru en 2012, mm-hmm. je crois, c'était aux éditions Stock. Et puis le livre de Laurent Mauvignier, qui date lui de 2009, si je me trompe pas, Des hommes, et qui met en scène le destin brisé d'anciens appelés et qui raconte d'ailleurs ce que nous étions en train de dire, hein, comment ils sont devenus des blocs de silence, mais aussi ça se joue sur fond, c'est une agression raciste qui est un petit peu le point de départ dans un petit village.
Oui.
Et j'aimerais savoir comment vous percevez un petit peu ces autres manières de raconter, de briser les silences qui passent par l'art, que ce soit la littérature, le cinéma.
Alors je peux vous répondre de deux manières, c'est-à-dire moi en tant qu'historienne, Qu'est-ce que je peux en dire? Et puis en tant que citoyenne, c'est
eh bien, les deux. Les deux m'intéressent.
Alors Florence Doss, c'est un peu à part parce que c'est une thèse en fait, une thèse qu'elle a faite sur la direction de Benjamin Stora. Donc c'est comment je peux lire une collègue, je peux vous répondre, mais voilà.
Donc, c'est un roman,
donc j'en parle dans le livre. Ça sera une discussion scientifique sur comment elle a travaillé, à quelle conclusion elle arrive. Ce qui est intéressant peut-être dans son cas et qui tire un petit peu les choses à côté, c'est que c'est aussi une fille d'appelée.
C'est
moi, elle m'a intéressée comme objet en fait, Florence Doss, c'est-à-dire elle fait partie de ces enfants qui se sont emparés du silence et de leurs questions autour de l'expérience des pères pour contourner le silence des pères et travailler avec un autre matériau. Donc elle a travaillé en faisant de l'histoire, mais d'autres ont fait de la littérature, ont fait des BD, ont fait des chansons, ont fait des films, ont fait des pièces de théâtre, ont fait des documentaires à partir de cette interrogation qu'ils avaient comme enfants et puis d'autres choses aussi et qu'ils avaient comme citoyens et comme citoyennes aussi, je pense. Donc moi, je les prends comme objet déjà. C'est-à-dire que qu'est-ce que nous disent ces œuvres sur la capacité dans une société pour un certain nombre de gens de se saisir et de créer. Et vraiment, le livre se termine sur les enfants créateurs. Je crois vraiment que que tous les enfants sont à leur manière des enfants créateurs, mais là, on a des créateurs qui produisent des œuvres pour un public et donc mettent en partage, et en ce sens ils nous intéressent et ils font une œuvre collective enfin à proposer au public, et donc ils parlent d'un état de la société, et donc c'est tout à fait intéressant de voir qu'il y en a beaucoup de plus en plus et que ça tourne quand même tout le temps autour de la question du silence et du traumatisme, et donc ça va dans le sens de ce que j'écris à la fin, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, on a une perception de l'expérience des appelés qui est très connotée victime et traumatisme. Alors qu'ils n'ont pas tous été victimes et encore moins, ils ont été tous traumatisés. Mais c'est vraiment notre regard sur ce passé. Notre regard, il est très largement médié par ces créations hein, qui mettent en scène ça. Et par ailleurs, ça nous correspond bien de nous penser comme ça en ce moment, comme société. Et il n'y a pas que sur le thème de l'Algérie. Nous penser victimes de l'histoire, victimes de je ne sais pas quoi. Par ailleurs, donc le livre de Mauvigné, j'ai écrit quand il est sorti un compte-rendu critique parce que c'est un livre qui m'a tout à fait, qui m'a beaucoup intéressée parce que d'une certaine manière, j'ai trouvé que c'était vraiment le livre de son époque. Au moment où il est sorti, vraiment, c'est exactement ça qu'on avait envie de lire. Enfin, pas moi personnellement comme historienne, mais le succès de ce livre, indépendamment de ses qualités littéraires, que je ne peux pas juger, mais que j'apprécie par ailleurs, c'était vraiment le livre qui correspondait à la sensibilité d'une époque où on pense que les appelés sont violents, racistes et pas bien dans leur tête parce qu'ils ont été témoins de choses terribles en Algérie. C'est ça que raconte ce livre. À mon avis, il en fait beaucoup trop. Enfin, il y a beaucoup trop de choses terribles. Il n'y a pas besoin de tout ça, en fait. C'est là où le livre, à mon sens, va trop loin. Hein. C'est-à-dire que finalement, il fait de ce feu de bois son personnage. Il est extrême, quoi. Il est vraiment extrême. Alors qu'en fait, derrière lui, il y a des gens beaucoup plus ordinaires qui ont fait des choses beaucoup plus ordinaires et qui sont tout autant, pour certains, avec des difficultés de réadaptation. Mais ceci dit, c'est un livre qui, oui, ça ne m'étonne pas que vous le citiez, qui fait complètement écho.
On y pense, effectivement, dès qu'on vous lit. Merci, Raphaël Branche, de nous éclairer sur une période matrice de l'histoire contemporaine française qui nous permet de comprendre notre passé, mais aussi notre présent. Je rappelle que Papa, qu'as-tu fait en Algérie est sorti en ce mois de septembre aux éditions La Découverte. Je rappelle également un autre grand classique de Raphaël Branche, La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie, 1954-1962. Et je terminerai avec cette phrase, pour que l'héritage se fasse, il faut que temps social et temps familial convergent. C'est dans ce livre de Raphaël Branche et ça m'a marqué. Je vous laisse la méditer. À très bientôt sur Mediapart. Merci à toi Fabien.
Merci
de m'avoir accompagné. Et à très bientôt sur Mediapart.